Bon, l'histoire se répète, c'est-à-dire que d'un côté, Québec demande aux médecins de famille de prendre plus de patients, de voir des patients qui sont, orphelins, des gens qui sont inscrits au fameux guichet qui attendent depuis des mois et des mois pour trouver un médecin. De l'autre côté, le syndicat des médecins, la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, dit on manque de médecins, on connaît la chanson. Nos médecins sont débordés, travaillent en clinique, travaillent à l'hôpital. Et si on nous demande de voir ces patients orphelins, ben nos patients vont se retrouver ailleurs, quelque part, par exemple, dans les salles d'urgence. Alors, est-ce qu'on manque de médecins? Est-ce que les médecins en font assez? Nathalie, à vous la parole.
Tout d'abord, c'est plus simple d'aller sur la planète Mars, ma foi, que de trouver un médecin de famille. Non, mais là, ils viennent d'inventer une autre patente, là. L'orchestrateur, là. Oui. J'ai entendu ça hier, là.
Oui, oui.
Bon, une plateforme informatique qui va permettre de trouver une place, de trouver un médecin pour les patients orphelins. Là, on n'a pas juste des patients, on est rendu que des patients orphelins. Puis pour compliquer la patente, là, ils vont être dirigés vers des GMF, des groupes de médecine familiale. Mais il y a des groupes de médecine familiale réguliers, il y a des réseaux, puis il y a des universitaires. Tu sais, ah, tu regardes ça, tu dis, ben, on s'en sortira jamais. Il y a quoi, près de 600 000 Québécois qui n'ont pas de médecin de famille. Puis il me semble que dans une société où on a décidé que notre système de santé était universel et accessible, il me semble que le minimum, c'est d'avoir accès à un médecin. Ou si tu peux pas avoir de médecin de famille, que tu aies justement accès à un médecin quand tu en as besoin. Sur les 600 000 Québécois, petite statistique, là, il y en a 31% qui attendent depuis 367 jours. Puis souvent, c'est des gens qui ont des problèmes importants de santé. Et le 69% attendent depuis 477 jours. Ça n'a pas de maudit bon sens. On va se le dire. Et moi, ce qui me frustre, c'est que ça a pris une loi en 2015, c'est Gaétan Barret qui a déposé une loi, ça a pris une loi pour obliger les médecins au Québec à prendre plus de patients. Puis lorsque j'entendais le docteur Godin dire hier en entrevue avec toi, Paul, il nous manque de médecins au Québec. C'est drôle parce que les statistiques confirment que au Québec, par rapport aux autres provinces, per capita, on est bien pourvu en médecins, puis c'est ici que nos médecins sont les mieux payés. Alors, je me dis, en quelque part, cette espèce toujours de partie de bras de fer entre le gouvernement et les médecins pour assurer un minimum de services à des citoyens, ça n'a pas de maudit bon sens, selon moi. Les syndicats de médecins sont devenus trop puissants. Écoutez, il y a une certaine époque, c'est la FTQ puis la CSN qui faisait trembler le gouvernement. Là, c'est rendu que c'est la FMOQ puis la FMSQ qui run le show. Excusez l'expression, là, mais c'est ça, la réalité. Et moi, je trouve que c'est frustrant parce qu'on leur verse 8 milliards de dollars par année. Puis quand vient le temps de régler ou d'assurer une plus grande accessibilité des citoyens médecins, il faut rajouter de l'argent sur la table. Daniel Mécan en a mis 46 millions de plus il y a 2 ans. Puis on trouve toujours pas le problème. Alors, en quelque part, à un moment donné, il y a peut-être quelqu'un dans l'équation là, qui est de mauvaise foi. Excusez-moi de le dire comme ça. Là.
Hier, en tout cas, ça me semblait évident en écoutant M. Drouin. M. Drouin n'est pas là pour identifier une solution.
M. Godin.
Excuse-moi, oui.
Oui.
Pas là pour identifier une solution. Il est là pour faire pression pour que la seule solution qu'il envisage soit réalisée. Parce que ce qu'il demande, là, d'engager entre 700 nouveaux médecins et 1000 nouveaux médecins, ça rajoute 400, 500 millions de dollars de plus à la facture, qui est déjà, comme tu le dis, Nathalie, la plus élevée au Canada et de loin. Et quand il donne des statistiques en disant « les médecins travaillent déjà fort », j'en doute pas que des médecins qui travaillent fort, il reste que c'est ici qu'il y a le plus de médecins qui ont une semaine de 4 jours et une semaine de 3 jours au Canada. C'est ici aussi que le nombre de patients à charge est le plus faible au Canada. Donc, 1000 patients à leur charge contre 1500 en Ontario. Alors, je pense qu'il faut arriver à la conclusion là, que la réforme Barrette a échoué. La réforme Barrette se disait, on va leur donner plus d'argent, ils vont donc travailler plus. Et on sait maintenant que c'est pas tout à fait ça.
Ah non, attends une minute. La réforme Barrette, elle disait, si tu prends pas le ratio de patients qu'on souhaite que tu prennes, on va couper dans ta rémunération.
Oui,
Daniel Mécan est arrivé, puis elle a dit, non, on va sortir la carotte plutôt que le bâton.
Nathalie, je m'excuse, mais Couillard avait fait ça la dernière année avant de céder le pouvoir. Il avait enlevé le bâton lui aussi.
C'est-à-dire que moi, je peux me donner un exemple très précis. La notion, c'était d'inscrire des patients.
Oui.
Et c'était la course à l'inscription. Ça veut pas dire que tu les voyais, ça veut dire que tu les inscrivais. Et c'était, puis après ça, je me souviens, parce que j'ai eu ces discussions-là que Dr Godin, allez voir atteindre les cibles, ouais, mais là, finalement, ça sera pas ça, puis on n'est pas loin, mais c'est pas... C'est comme jamais grave avec le syndicat si t'atteins pas les cibles.
Bien, ce qu'il faut maintenant, là, ce qu'il faut, c'est de revoir cette réforme-là. Il faut se dire, non, nos médecins ont fait un choix. Ils ont fait un choix légitime, Puis notre système aussi, il est orienté vers ce choix-là. Ils ne travailleront pas comme 70 heures par semaine pour faire 450 000 $, 500 000 $. Ils ne le feront pas. Ils ont choisi ça. C'est très bien. Aussi, il faut dire une chose. Là. On demande que ces médecins-là fassent 20 heures, 25 heures de travail par semaine en hôpital ou en deuxième ligne à différents endroits. Ils sont partout dans le réseau. Ils sont utiles au réseau. Ils font pas juste de la clinique. Alors, ouais. Ensuite, il faut avouer aussi qu'on est en vieillissement de la population. Donc, on n'aura pas assez de médecins pour le nombre de personnes, compte tenu de toutes ces variables-là. Alors, ce qu'il faut faire, c'est diminuer le salaire des médecins et en embaucher plus.
C'est une solution. L'autre solution aussi, puis il y a des cas encore d'aberration, là, des parents qui attendent des heures dans les urgences pour des otites chez leurs enfants. Voyons donc s'il n'y a pas, il y a certainement un pharmacien ou une infirmière spécialisée qui pourrait diagnostiquer ce genre de problème. Ça a pris combien de temps à négocier la répartition des tâches avec les infirmières praticiennes spécialisées? 10 ans? 15 ans? Le Collège des médecins est un lobby extrêmement puissant. Ils tiennent à leur chasse gardée. Ça fait en sorte que, par exemple, nos médecins étrangers, c'est la croix et la bannière lorsque vient le temps de faire reconnaître leurs compétences. Ça n'a pas de bon sens. En fait, les médecins, je blâme pas les médecins parce qu'on aime tous notre médecin. C'est comme notre député. Hein? On aime notre médecin, on aime notre député.
Mais c'est on vrai. Fait la comparaison, mais continue.
Non. Mais collectivement, on a toujours quelque chose à dire face à nos élus puis face à la FMSQ ou la FMOQ. Ce que je veux dire, c'est que l'espèce de réflexe de corporatisme, ça atteint sa limite. Tu sais, je veux dire, ça va à chaque fois que vient le temps de négocier avec. Là, on fait juste de négocier l'accès à un médecin pour les 600 000 Québécois qui malheureusement n'ont pas de médecin de famille. Ça, c'est une petite partie du bras de fer qu'on entreprend toujours avec eux. Mais ça devient essoufflant. Le Collège des médecins, honnêtement, pourrait donner un petit peu plus, pourrait être un peu plus, se montrer un petit peu plus ouvert, puis dire, écoutez, là, oui, on va voir comment on peut mettre davantage à contribution les pharmaciens, les infirmières praticiennes spécialisées. Écoutez, durant la pandémie, ça fait pas 10 ans, là, il y a un an, le gouvernement a dit non aux médecins étrangers qui étaient en processus de reconnaissance de leurs compétences avec le Collège des médecins pour contribuer à l'effort de guerre durant la pandémie.
Mais Nathalie, je pense que là aussi, on est arrivé à une conclusion. Puis tu l'exprimes bien. La conclusion, c'est que ce ne sont pas les partenaires pour discuter de la réforme qu'on doit mettre en place. Il y a eu des discussions à pu finir. Et hier, le docteur Godin nous arrive avec zéro solution. Zéro. Tout ce que tu viens d'énumérer, là, la mise à contribution des pharmaciens et pharmaciennes, la mise à contribution des infirmières spécialisées, l'augmentation du nombre de super infirmières, la télémédecine, l'intégration des médecins étrangers plus facilement dans le corps des médecins, etc. Toutes ces solutions-là, là, ils ne les évoquent même pas. Alors, exactement. On ne leur parle plus. On fait une réforme qui est nécessaire pour la population, nécessaire pour les clients, mais qui va nécessairement aussi avoir un impact sur leur pouvoir corporatif, puis qui va avoir nécessairement un impact sur le salaire des médecins. Fait qu'on leur parlera en bout de ligne. On commence pas par leur parler à eux.
Mais je vais juste rajouter
une petite chose, de rien du tout.
Oui, ça nous emballe.
Les médecins ne sont pas heureux dans la situation actuelle. Il y a des médecins qui travaillent comme des malades, qui savent plus où donner de la tête, qui arrivent à la fin de leur journée, puis qui se rendent compte qu'ils n'ont pas fait tout ce qu'ils voulaient faire, puis ils n'ont pas rencontré tous les gens qu'ils voulaient rencontrer. Eux aussi sont malheureux.
Et au Nouveau-Brunswick, 50% des consultations se font en télémédecine, comme on l'appelle, là, soit par téléphone ou par Internet. L'autre aberration qui donne encore plus de pouvoir à la FMSQ et la FMOQ, j'ai appris ça hier, ils siègent sur le conseil d'administration de la RAMQ, toi. Ils siègent sur l'organisme qui verse la rémunération des médecins. Allô, apparence de conflit d'intérêts, là. Je sais pas, là. Mais il me semble que ça fait bizarre un peu, là. La RAMQ qui verse des milliards de dollars par année aux médecins et les deux syndicats qui représentent nos plus de 20 000 médecins siègent sur le conseil d'administration de l'organisme. Il me semble qu'ils versent les salaires aux médecins. Il me semble qu'il devrait y avoir une espèce de petite, comment dire, une distance, une indépendance qui est plus. Alors, je me questionne par rapport à ça, là. Ça m'a frappé hier lorsque j'ai vu ça. Mais clairement, le sentier qu'on emprunte depuis des années, c'est-à-dire toujours se mettre à genoux devant ces grands syndicats, ça ne peut plus durer comme ça.
Mauvaise réponse.
Ça, c'est M. Barrette.
Non, mais honnêtement, là, mais tu le dis quoi? Pas, ça fait des années qu'on parle de ça.
Oui, mais c'est quoi? Ça fait des années que quand on parle de médecine au Québec, on parle de cash tout le temps.
Voilà.
On parle tout le temps de la rémunération des médecins. On est en égo avec les médecins. Il y a les primes des médecins. On a aboli telle prime. On est tout le temps dans l'argent.
Puis pendant ce temps-là, on oublie le patient. C'est ça, on oublie le patient. Le plus important, c'est quoi l'essentiel? C'est le patient, c'est le citoyen qui paye.
Puis l'autre question que tu peux te poser, puis je n'ai pas la réponse, mais quand on parle du ratio, le nombre de médecins là, par citoyen au Québec, là, par millier, OK, le nombre est important. La semaine de travail dure combien de temps? Je vais te raconter une anecdote. Venant d'un député, d'ailleurs, qui cherchait à attirer un médecin dans sa région, et le médecin est arrivé en disant « Voici mes conditions. » Parle d'un médecin quand même de famille avec clinique et travaille à l'hôpital régional. Il dit « Moi, je fais 4 jours par semaine. Avec les augmentations, j'ai pas besoin de plus parce que je me suis acheté une fermette puis j'ai décidé de passer du bon temps. » Tu vas me dire que c'est un exemple, mais tu veux l'avoir. Alors, ils ont dit « Ben oui. » Fait qu'il travaillait 4 jours, c'était assez payant puis c'était ben parfait. Oui. Il n'y a pas envie d'en faire plus.
Mais trouvez-vous que c'est normal dans un système public où des médecins sont payés jusqu'à 2 millions de dollars par année? Écoute, le salaire moyen...
Ouais, mais ça, c'est l'exception, Nathalie, quand même.
Attends une minute. Le salaire moyen d'un médecin omnipraticien, c'est plus de 490 000 $. Puis il y en a qui trouvent encore le moyen de se plaindre. Parce qu'on est dans un système public, là. On n'est pas dans un système privé, là. Puis c'est toutes nous autres, toute la gang qui paye avec nos taxes et nos impôts, là. Je sais pas, il me semble que ça mérite réflexion, non?
Luc, les avocats, ça coûte combien, ça? C'est 380 $, 400, c'est ça, 500?
Les avocats sont dans le privé, là.
On avait un premier ministre qui était avocat et médecin. Lui, pourtant, il gagnait 110 000 $ par année.
OK, on vous retrouve demain, 9h06. On a élargi notre banque d'amitié encore une fois. Oui, comme d'habitude. C'est un mandant seulement de dire comment est-ce qu'on pourrait avoir plus d'amis à 10h? Le résumé, c'est ça. On est rendu là.